Silcast présente l'analyse longue. Thème du jour, géopolitique, avec Alex et Sacha. Bonne écoute.
On se retrouve pour prendre le temps sur trois articles qui, mis bout à bout, dessinent quelque chose d'assez glaçant. Depuis le 28 février, la guerre déclarée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a redéfini la région entière. Et ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est pas juste une politique étrangère plus agressive, c'est une reconfiguration idéologique de ce que les États-Unis prétendent être dans le monde. On va prendre trois textes qui parlent de ça sous trois angles différents. La Syrie post-guerre, vue par Didier Billion dans Iris, qui montre comment l'onde de choc iranienne bloque toute reconstruction régionale. Un texte du Grand Continent sur ce que l'auteur appelle le grand estrangement américain vis-à-vis de l'Europe. Et un autre du Grand Continent, signé Maya Kandel, sur la manière dont Trump a transformé la liberté d'expression en arme diplomatique.
La thèse d'ensemble que je vois se dégager, c'est celle-ci. La séquence Iran ne se lit pas isolément. Elle s'inscrit dans un basculement stratégique et narratif où Washington rompt avec le récit atlantiste d'après 45 et projette à l'extérieur un nouvel arsenal, militaire mais aussi idéologique. Et les États tampons, la Syrie, le Liban mais aussi l'Union européenne, en paient le prix, chacun à leur manière.
Commençons par la Syrie alors, parce que c'est le plus concret. Didier Billion, dans son entretien à l'Iris, dresse un bilan très sombre. 15 ans après le début de la guerre civile, 1 an et demi après la chute d'Assad fin 2024, et surtout 4 mois après le 28 février, la reconstruction est à l'arrêt.
À l'arrêt et pour des raisons précises qu'il faut nommer. Billion liste les acteurs un par un, et c'est un constat de faillite généralisée. La Turquie n'a plus les moyens économiques d'investir massivement. L'Arabie saoudite voulait porter la reconstruction, mais les projets pharaoniques de Mohamed Ben Salman sont désormais entravés par les conséquences directes de la guerre contre l'Iran. La Chine reste prudente, ne veut prendre aucun risque. La Russie est hors jeu à cause de l'Ukraine, même si elle garde ses bases militaires. Et l'Union européenne, je cite Billion, est spectatrice, préoccupée surtout par le renvoi des réfugiés syriens plutôt que par un plan d'aide.
Et les États-Unis dans tout ça? Billion a une formule assez cinglante. Il parle d'un moment d'égarement mental de Trump qui aurait proposé que les troupes d'Ahmed al-Chara, donc le nouveau pouvoir syrien, interviennent au Liban contre le Hezbollah. Ce qui montre à la fois l'ignorance et le fait que Washington n'a aucun projet cohérent pour la région, juste des impulsions.
Ce point est central. Ce que Billion décrit, c'est un vide. La guerre contre l'Iran a fracassé l'ordre régional précédent, sans en installer un autre. La Syrie a des élections en octobre 2025, un début d'institutionnalisation, une amélioration relative de la sécurité par rapport aux violences communautaires de mars 2025 contre les Alaouites, environ 1500 civils tués selon les estimations qu'il rappelle. Mais tout cela reste extrêmement fragile parce qu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de garant régional et il n'y a pas de vision américaine autre que la déstabilisation.
C'est ce qui me frappe. Politiquement, la Syrie post-Assad aurait pu être un moment d'ouverture. Sauf que le calendrier a été confisqué par la guerre Iran. Les capitaux qui auraient dû aller à Damas vont maintenant à la gestion de crise énergétique, au réarmement, à l'incertitude régionale.
Et sur le fond, moi, ce que je retiens marxiquement, c'est que la reconstruction syrienne était de toute façon pensée comme un marché pour les capitaux du Golfe et Turc. Quand ces capitaux se rétractent, il n'y a aucun mécanisme public, régional ou international pour prendre le relais. La population syrienne, elle, continue de vivre dans un pays exsangue. C'est la logique du capitalisme de crise. Les guerres se succèdent, les reconstructions sont promises, puis reportées, et les populations sont laissées dans un état d'attente permanente.
Passons au deuxième article, celui du Grand Continent, sur ce que l'auteur appelle le grand estrangement. C'est un texte plus théorique, mais qui, je trouve, donne la clé narrative de tout le reste.
La thèse est la suivante. Les États-Unis ne sont pas simplement en train de tourner le dos à l'Europe conjoncturellement, ils sont en train de changer de récit national. L'auteur propose de nommer ça « syndrome originaliste ». Après 1945, les États-Unis se voyaient comme sauveurs et tuteurs démocratiques de l'Europe. Ce récit a tenu grosso modo jusqu'à la chute du mur, puis s'est effrité avec la vieille Europe de Rumsfeld en 2003 comme moment charnière, puis Trump en 2016, et une accélération brutale depuis janvier 2025.
Et là où c'est intéressant, c'est que l'auteur dit que ce n'est pas un simple retour à l'impérialisme du 19e. C'est un retour aux fondamentaux du 18e et du 19e, à la doctrine du destin manifeste, à Jefferson, à l'idée que l'Amérique doit se construire contre l'Europe, perçue comme continent des tyrannies. Il souligne que les entrepreneurs de la tech, les Thiel, les Andreessen, se réclament explicitement d'une nouvelle démocratie jeffersonienne.
Ce point est crucial parce qu'il fait le lien avec le troisième article qu'on va aborder. Le premier amendement, la liberté d'expression absolue, la souveraineté individuelle dans le cyberespace, tout ça est réactivé comme mythologie fondatrice. Ce n'est plus juste une doctrine juridique américaine, c'est un projet civilisationnel offensif contre l'Europe.
J'ai un doute quand même sur l'article. Il présente ce basculement comme presque une opportunité pour l'Europe. La fin du récit atlantique est une chance historique. Toi, tu en penses quoi?
Je suis partagé. Sur le diagnostic, il a raison. L'Europe ne peut plus fonder son identité sur la protection américaine. C'est fini. Et l'admettre est nécessaire. Mais sur la conclusion, l'idée qu'il faudrait un nouveau récit européen, je suis méfiant. Parce que dans la bouche des élites du grand continent, ce nouveau récit européen signifie souvent réarmement, autonomie stratégique par le haut, économie de guerre européenne. C'est une réponse bourgeoise à un problème qui est aussi un problème de classe. Le retrait américain, il ne concerne pas seulement les diplomates, il concerne les travailleurs européens à qui on va demander de payer ce réarmement.
Ok, mais politiquement, il faut bien répondre à quelque chose. Si les États-Unis passent d'alliés tutélaires à adversaires idéologiques, l'Europe ne peut pas juste faire semblant.
D'accord. Ma critique, c'est juste qu'on ne peut pas confier le nouveau récit à ceux qui portaient l'ancien. C'est un tournant qui devrait être l'occasion d'un débat démocratique large, pas d'une accélération technocratique.
Ce qui nous amène directement au troisième texte, celui de Maya Kandel sur la liberté d'expression comme arme. Et là, on a la mécanique concrète du grand estrangement.
Le texte est excellent parce qu'il montre le double mouvement. À l'intérieur, Trump instrumentalise le premier amendement pour poursuivre ses ennemis politiques, notamment les gens de l'administration Biden qui travaillaient sur la lutte contre la désinformation d'origine étrangère. À l'extérieur, la même notion est utilisée comme prétexte pour attaquer les réglementations européennes sur les grandes plateformes, le DSA, les législations contre les discours de haine.
Et le point clé, celui que je trouve nouveau, c'est la stratégie de sécurité nationale publiée le 5 décembre 2025. Kandel souligne que ce document définit la protection de la liberté d'expression des citoyens américains comme un principe fondamental de la politique étrangère américaine et attribue explicitement à l'Union européenne des pratiques de censure. Autrement dit, l'attaque contre les régulations européennes est désormais doctrinale, écrite noir sur blanc dans le document stratégique de n'importe quel exécutif.
Et ça, c'est le passage de la posture au dispositif. Ce qui était rhétorique de campagne devient outil de chantage commercial. Kandel rappelle que dans les négociations commerciales avec l'Europe, la liberté d'expression a été brandie comme monnaie d'échange. Concrètement, vous voulez éviter les tarifs douaniers, alors laissez tomber vos régulations sur X, sur Meta, sur les plateformes.
Et le pivot narratif, elle le situe autour de l'assassinat de Charlie Kirk. La notion se redéfinit encore après ça. La droite américaine s'en empare pour dire en gros que critiquer la parole conservatrice devient en soi une menace existentielle.
C'est le paradoxe absolu. La liberté d'expression théorisée comme absolue devient un instrument pour réduire au silence ceux qui critiquent le pouvoir. À l'intérieur, elle sert à poursuivre les fonctionnaires de Biden. À l'extérieur, elle sert à démanteler les régulations démocratiques votées par les parlements européens. C'est une inversion classique en régime autoritaire. Le vocabulaire de la liberté au service de la coercition.
Et ça se relie à l'Iran comment concrètement? Parce qu'on est dans un épisode sur les tensions Iran-USA.
Ça se relie parce que la guerre du 28 février contre l'Iran n'est pas un événement isolé. C'est un moment dans une séquence stratégique cohérente. Les mêmes États-Unis qui bombardent Téhéran, qui laissent la Syrie sans financement de reconstruction, qui rompent avec l'Europe, qui instrumentalisent le premier amendement contre Bruxelles. C'est un seul mouvement. C'est la projection d'un nouveau modèle américain, unilatéral, jeffersonien, revanchard, qui refuse toute contrainte internationale, qu'elle soit onusienne, européenne ou même juste juridique.
Donc, en synthèse, si je résume, le premier article nous montre les dégâts sur le terrain, une Syrie qui ne peut pas se reconstruire parce que la guerre contre l'Iran a asséché les capitaux régionaux. Le deuxième nous donne le cadre narratif, le retour au récit originaliste américain, l'estrangement de l'Europe. Et le troisième nous montre l'outil idéologique concret, le premier amendement transformé en arme de vassalisation.
Ce que je retiens transversalement, c'est qu'on assiste à la fin d'un cycle. Le cycle atlantique 1945-2025 est clos. La question n'est plus de savoir si les États-Unis restent alliés, mais quel type d'adversaire ils deviennent. Et la réponse esquissée par ces trois textes, c'est un adversaire idéologique, économique et par moments militaire, qui utilise à la fois la force brute contre l'Iran, l'abandon stratégique contre la Syrie et le chantage doctrinal contre l'Europe.
Là où je te rejoins pas complètement, c'est sur l'idée que l'Europe aurait automatiquement les ressources pour répondre. Parce que la réponse en cours, c'est le réarmement à marche forcée, c'est la réarme Europe, c'est des budgets militaires qui explosent pendant qu'on coupe dans le social. La rupture avec Washington, elle risque d'accoucher d'une Europe plus militarisée, mais pas plus démocratique.
Sur ce point, on est d'accord. Le nouveau récit européen que réclame le grand continent, il n'est pas neutre socialement. C'est le débat qui vient, et à mon avis, c'est celui qui va structurer la politique européenne pour les 5 années à venir. Est-ce qu'on répond à Trump par une autonomie stratégique de type impérial, ou par une autre chose, plus démocratique, plus sociale, moins militariste?
Question qui reste ouverte. On la retrouvera dans les épisodes qui viennent, c'est certain.